Novela Lucito.
Juin 2008, le 48e anniversaire de l'indépendance du Congo démocratique, célébré partout dans le pays ce lundi, à Kananga, au Kasaï occidental, le chef de l'État, Joseph Kabila, a vu défiler des Congolais de toutes les provinces. Dans ce journal, d'autres détails avec André Kambala. En 48 ans d'indépendance, la province du Nord Kivu a connu plusieurs guerres qui ont détruit les tissus économiques de la province, un bilan dont vous aurez les détails avec Gisèle Cage. Toujours pas de cimenterie de la province orientale. La pose de la première pierre pour la construction de cette industrie a été faite il y a près de 4 mois et depuis, plus rien. Bonsoir à tous. Un grand défilé d'environ 4 heures a eu lieu ce 30 juin à Kananga, chef-lieu du Kasaï occidental. En présence du chef de l'État Joseph Kabila et de différentes autorités, des Congolais venus de toutes les provinces ont participé à ce défilé. D'autres manifestations sont prévues ce soir dans la ville. Des précisions avec André Kambala.
Les différentes délégations provinciales ont présenté les résumés de leurs objectifs en deux messages concis. L'Équateur s'est défini comme le réservoir de biocarburants, le Bandundu aspire à redevenir le grenier agricole de la RDC, alors que le Maniema s'est défini lui comme l'entité pilote de la dynamique de la décentralisation. Les opposés militaires du Kasaï occidental ont aussi dit non à la paresse, invitant les Congolais à se mettre debout pour rattraper l'histoire autour de Joseph Kabila. Aux côtés du président de la République se trouvait beaucoup d'autorités, notamment la sommité de la MONUC, le corps diplomatique accrédité en RDC et les deux présidents de chambres de parlement belge, sans oublier ceux de chambres de parlement congolais. Cependant, l'on a noté l'absence de parti politique de l'Union pour la Nation et l'UDPS Tshisekedi. Cette nuit, plusieurs manifestations sont également prévues. Il s'agira de feux d'artifice. Ceux-ci seront suivis par des concerts des artistes musiciens comme Kalonji Bill Clinton, Tshala Mwana et les Banaoke, sans oublier les Limba. De Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
À Kinshasa, seuls les traditionnels services étatiques ont défilé ce lundi sur le boulevard Triomphal. Les autres forces vives ayant, elles, les yeux rivés sur Kananga, estiment n'en avoir pas été informées par les pouvoirs publics de ces manifestations. Récit de Pascal Massirika.
Les bourgmestres des communes, les mandataires publics et tant d'autres invités qui ont répondu présents à ce défilé.
Les agents et fonctionnaires de l'administration publique et autres travailleurs des entreprises privées ont défilé ce lundi pendant 4 heures sur le boulevard Triomphal de Kinshasa. Tout ce beau monde avait été précédé devant la tribune par une parade de la police et des hommes en uniforme, de la garnison militaire y compris la garde républicaine. Le tout ponctué par la fanfare de la force terrestre. Peu avant le défilé proprement dit, le gouverneur de la ville de Kinshasa a pris la parole pour exhorter ses administrés à faire preuve d'innovation créative. En ce moment où le pays amorce un nouveau virage vers le développement. André Kimbutayango a placé le 48e anniversaire de l'indépendance de la RDC sous les signes de la refondation, au motif qu'il coïncide avec le coup d'envoi des travaux de reconstruction et de modernisation des infrastructures souhaitées par tout le monde. Notez cependant que, contrairement à la coutume, le défilé organisé à Kinshasa ce lundi n'a pas suscité beaucoup d'engouement des forces vives.
Des défilés ont aussi été organisés dans plusieurs villes du pays, notamment à Kisangani dans la province orientale, à Bukavu au sud Kivu et à Kindu au Maniema. Au Kasaï oriental, le gouverneur Alphonse Ngoy Kasangi a placé cet anniversaire sous le signe de la relance agricole pour l'autosuffisance alimentaire. À Uvira dans le sud Kivu, l'administrateur du territoire a invité les groupes armés présents dans la région, notamment les Maïmaï, à rejoindre le processus de réforme de l'armée. À Matadi dans le Bas-Congo, la cérémonie a été marquée par un défilé devant le camp militaire Rejaf. Le gouverneur du Bas-Congo a entre autres réitéré son appel à l'endroit des adeptes de Bundu-Dia-Congo qui se trouveraient encore dans les forêts afin qu'ils regagnent leur milieu d'origine et puissent vaquer librement à leurs occupations. À l'Équateur, le 30 juin a été marqué par des défilés à travers la province. Dans son discours, le gouverneur de l'Équateur, José Makila, a insisté sur la nécessité de reconstruire la province si l'on veut que la RDC et l'Équateur en particulier trouvent leur place dans le concert des nations, a-t-il dit. Cependant, à Guadolite et à Guémena, au nord de l'Équateur, les enseignants qui réclament le paiement de leur salaire de 2 mois ont boycotté la fête. Ghislaine Ntobo pour d'autres précisions.
À Mbandaka, la place de la mairie était noire de monde ce 30 juin. Plusieurs personnes s'y étaient données pour un grand défilé qui a réuni toutes les forces vives de la ville. Agents de l'État, policiers, militaires, écoles, entreprises publiques ou privées, associations et autres ONG ont défilé 4 heures durant sous un soleil de plomb. Trois points importants sont à relever du discours prononcé par le gouverneur de province José Makila à l'issue du défilé. La signification de la journée du 30 juin, un bref historique de l'accession du pays à l'indépendance et enfin les pistes pour la province de l'Équateur de retrouver la paix et la prospérité. Pour José Makila, cette journée doit d'abord être celle de la réflexion profonde sur l'unité des Équatoriens, le développement ainsi que l'appel au travail pour relancer l'économie de la province. Les niveaux de productivité étant très bas, estime-t-il. À Guadeloupe, toutefois, les enseignants de l'EPSP, tous les réseaux confondus, ont maintenu leur décision de boycotter les festivités marquant le 48e anniversaire de l'indépendance. Ils réclament le paiement de leur salaire des mois de mars et juin 2008. Même situation à Guémena où enseignants et élèves des écoles tant publiques que privées ont prié par leur absence au défilé de ces jours. Signalons enfin qu'à Mbandaka, dans le cadre des activités prévues pour cette journée, outre un match de football qui s'est joué hier, une course de piroguiers a été organisée après le défilé sous le fleuve au bord de la résidence officielle du gouverneur de l'Équateur. Mbandaka, Ghislaine Ntobo, Radio Okapi.
Notez qu'au Nord Kivu, plusieurs manifestations organisées par le gouvernorat de province se sont déroulées au stade de l'unité de Goma en présence des différentes personnalités venues des provinces de Kisoro et Kasese en Ouganda et de Rubavu au Rwanda. 48 ans après l'indépendance du pays, quel bilan dressé sur le plan politique, social et économique dans le Nord Kivu? Gisèle Cage s'est penchée sur la question.
D'abord, en matière d'infrastructures, beaucoup d'entre elles sont actuellement détruites, expliquent certaines personnalités qui ont vécu les premières heures de l'indépendance du Congo. Kibira Thomas, l'un des notables de cette province, se souvient par exemple qu'il fallait tout simplement 5 heures de route entre Goma et les territoires de Walikale. Mais aujourd'hui, les usagers qui pratiquent cet axe routier long de 200 km doivent parcourir le trajet pendant plus d'une semaine. D'autre part, la province du Nord Kivu fait face actuellement à plusieurs défis. L'insécurité causée par la présence de groupes armés, aussi bien nationaux qu'étrangers, a des conséquences graves sur l'économie de la province. Thomas Kibira, notable du Nord Kivu.
Quand il y a eu la fondation de la province du Nord Kivu en 1962, c'était la province qu'on appelait la province pilote, économiquement et socialement, parce qu'on travaillait, on respectait la loi. Chacun avait des revenus qui lui suffisaient. Mais depuis un certain temps, il y a beaucoup trop de guerres au Nord Kivu. Et quand il y a des guerres, les gens se déplacent, le bétail s'en va, les plantations s'en vont, les enfants ne vont pas dans les écoles sont détruites, l'économie est à plat.
Certains habitants de Goma qui révisitent l'histoire pré- et post-coloniale déclarent eux aussi que la vie n'est plus la même. D'après eux, leurs espoirs restent toujours fondés sur le processus Amani pour que la province retrouve une vie normale. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Okapi. Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Pascal Massirika, rendons-nous d'abord à l'Équateur. Trois personnes accusées de sorcellerie ont été tuées hier à coups de bâton et de machette par les habitants de la localité de Mbangi, à 17 km de Lissala.
Ce meurtre fait suite au décès à Lissala d'une femme de 30 ans. Après plusieurs jours d'hospitalisation, elle a été conduite auprès d'un féticheur du village voisin qui attribuera cette mort aux sorciers, parmi lesquels le père même de la malade et ses trois complices, dont les notables du village. Très vite au courant de la nouvelle et craignant le pire pour les personnes accusées, le chef du groupement Bagenza les a gardés chez lui, mais il n'a pu résister longtemps devant la foule des voisins, des villageois en colère. Selon la population locale, ces hommes étaient des récidivistes. Saisis de la situation, les autorités du district de la Mongala à Lissala ont dépêché une équipe de la police. La population s'est réfugiée dans la forêt. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu au village Mbangi.
Environ 50% d'équipements destinés à la CIPOR, cimenterie de la province orientale, sont entreposés depuis près de 4 mois à Kinshasa. Les travaux de construction de cette cimenterie n'ont toujours pas débuté.
Motif, le manque de moyens de leur acheminement vers le site d'exploitation de Maïko en province orientale. C'est ce que révèle le coordonnateur de la CIPOR une année après la pose de la première pierre par le chef de l'État pour le démarrage des travaux. Willy Lokomba en appelle à l'implication du gouvernement provincial pour l'aménagement du site d'exploitation ainsi que pour le renforcement et la réhabilitation du pont Luboya. Ceci facilitera l'accès au site et devrait ainsi permettre à la société indienne Jaguar de commencer les travaux de construction de l'usine. Godlive Omombo.
Selon le coordonnateur de la CIPOR, le coût des travaux préliminaires prévus pour l'accès au site d'exploitation et notamment l'aménagement du terrain, la réhabilitation du pont Louboya ainsi que la construction d'un pont sur la rivière Otonay est estimé à 96 000 $ américains. Ceci devrait être exécuté avec l'implication du gouvernement provincial. Cependant, rien n'est encore fait. À cela s'ajoutent les difficultés prévisibles au niveau de l'Onatra Kisangani par manque de matériel approprié pour le déchargement des certaines machines. Willy Lokomba, coordonnateur de la CIPOR.
Ce pont a une capacité à l'essieu de 25 tonnes. Or, les équipements destinés à la cimenterie pèsent très lourd. Le plus lourd de ces équipements pèse 35 tonnes. Nous avons d'abord préféré avoir l'implication de la province. Si la province ne sait pas s'impliquer, nous prenons nous-mêmes nos dispositions.
Le gouverneur des provinces, de son côté, dit n'est pas disposé d'une demande précise des travaux à exécuter. Toutefois, une somme importante a été débloquée à cette fin. Medara Uchayasinga.
Cette petite crise appartient du passé. Personne n'est venu chez nous pour dire que voilà, pour tel travail, il faut ça, ça, ça. Mais nous avons imaginé, j'ai envoyé mes ingénieurs, ils m'ont fait des propositions. Les fonds importants ont été débloqués. Maintenant, les travaux sont en train d'être réalisés.
Sachez que la moitié du matériel restant doit être fabriqué sur place. Ceci sur base d'une étude réalisée sur le terrain. Kisangani, Godlive Omondo, Radio Okapi.
En Ituri, le comité district de concertation sur les industries extractives CDC, une branche de la société civile de l'Ituri, note des avancées significatives depuis plus de 6 mois dans les actions sociales de la société minière Ashanti Gold Kilo, AGK.
Il s'agit notamment de la construction des écoles, de la réhabilitation des routes et des points d'eau en faveur de la population locale dans les zones minières. Ce constat a été fait au cours de l'atelier d'évaluation sur l'impact social de cette entreprise en Ituri. Atelier tenu hier par cette branche de la société civile locale à Mungwalu. Mungwalu, c'est une cité minière située à environ 80 km au nord de Bunia. Cependant, ce cadre de concertation estime que ces actions ne sont pas suffisantes. Le point avec Isaac Remoyope.
Parmi les actions réalisées par AGK, il y a notamment la réhabilitation du tronçon routier Mungwalu-Yedi, estimé à environ 35 km. Cette entreprise minière a également réhabilité plus de 5 points d'eau et la construction d'une école de 4 salles de classe à Mungwalu. Cette entreprise fournit également des médicaments à l'hôpital de référence de Mungwalu et des fournitures scolaires à l'école primaire Bemou. Les responsables de l'Enchanti Gold Kilo s'est cependant réservé de communiquer le coût de ces travaux. Ce geste est salué par les autorités coutumières locale. Les comités des districts de concertation sur les industries extractives déplorent notamment la situation de plus de 1700 anciens agents de l'Okimo qui n'ont pas encore réussi leur décompte final. Les CDC reprochent également à la société AGK de ne pas payer les salaires des personnels de l'hôpital et des écoles en sa charge. Selon les coordonnateurs des CDC, les responsables de l'AGK a indiqué que cela ne constitue pas une obligation pour son entreprise qui est encore au stade de l'exploration. Bounia Isaac Remoyope, Radio Capi.
Et puis, sachez que Jean-Claude Bissiliabo, journaliste de la radio Okapi à Bounia, n'est plus. Notre confrère est mort dans la nuit de ce lundi au centre médical de Kinshasa, Semka. Selon la plupart de ses anciens collègues et connaissances qui ont apprécié son savoir-faire et son caractère, sa mort est une perte pour la communauté de l'Ituri. Témoignage du directeur de la radio communautaire, Canal Révélation, où il a travaillé pendant 3 ans avant de rejoindre l'équipe de radio Okapi. Richard Pitoua est au micro de Isaac Remoyope.
Jean-Claude, j'ai retenu à lui un homme intègre qui est calme, mais qui travaille. Il aimait beaucoup son boulot. Il aimait beaucoup les loisirs et la culture. Il était beaucoup informé sur tout ce qui est musique. Au début, quand il était chez nous ici à la radio, on lui a donné une animation simple d'antenne. Et on voyait comment il prenait du sérieux dans ses travaux. Il évoluait très bien. Avec le temps, on lui a donné beaucoup de responsabilités au sein de notre radio. Quand bien même, j'ai regretté un peu comme il avait quitté la radio pour aller au Cap. Sa mort, c'est un trou, c'est quelque chose de moins dans notre société. Parce qu'en Ituri, nous n'avons pas assez de journalistes.
Notons que Jean-Claude Bissiliabo a laissé derrière lui une veuve et 2 orphelins. En dehors de nos frontières, le président soudanais Omar El-Béchir a licencié lundi le directeur de l'autorité de l'aviation civile quelques heures après un quatrième accident aérien mortel en 2 mois au Soudan, a rapporté l'agence officielle Suna. Le président Béchir, qui participe au sommet de l'Union africaine en Égypte, a licencié le chef de l'autorité de l'aviation civile cloué au sol des appareils de type Ilyushin et Antonov et chargé une commission d'enquêter sur les récents accidents aériens, a indiqué l'agence Suna. Le général Abou Bark Jafar a été licencié par décret présidentiel après qu'un avion russe, un Ilyushin 76, s'est écrasé lundi au décollage de l'aéroport de Khartoum, tuant 4 membres de l'équipage russe. C'est une décision politique du palais présidentiel, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'aviation civile Abdel Hafez Abdel Haïm, sans plus de commentaires. Le premier ministre Kenya Raila Odinga a appelé lundi à la suspension du président zimbabwéen Robert Mugabe de l'Union africaine jusqu'à ce qu'il autorise des élections libres et équitables lors d'une conférence de presse à Nairobi. Mugabe devait être suspendu jusqu'à ce qu'il autorise l'Union africaine à faciliter les élections libres et équitables, à l'issue d'une rencontre avec le sénateur américain de Floride, Bill Nelson. L'Union africaine créerait un dangereux précédent en permettant à Mugabe de participer à ces rencontres, a ajouté le premier ministre kenyan. Le premier président zimbabwéen Robert Mugabe a de fait été accueilli lundi à Sharm el-Sheikh au 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine par ses pairs africains. Sachez que Raila Odinga, premier ministre d'un gouvernement de coalition au Kenya, né de la sanglante crise post-électorale dans ce pays début 2008, est l'un des hommes politiques du continent le plus virulent sur la crise zimbabwéenne. C'est par ici que prend fin cette édition d'information du soir sur Radio Okapi. Mais sachez que, comme d'habitude, l'information continue sur le site internet www.radiookapi.net. Bonsoir chez vous. Okapi.